Bonjour et bienvenue sur Floraison. Voici la suite du podcast consacré au livre d'Aurélien Berland, Terre et Liberté, publié aux éditions La Lenteur. En tout, ce podcast est divisé en 4 épisodes, dont voici le 3e. Si vous n'avez pas suivi les premiers épisodes, on vous conseille d'arrêter celui-ci et de retourner au début de la série pour une meilleure compréhension. Bonne écoute!
Quand j'ai parlé tout à l'heure des liens entre la liberté, la manière dont la conception négative de la liberté se retrouvait dans le marxisme, l'absence de contraintes, l'absence de limites, donc on a une certaine idée de la liberté qui est liée à ça, être délivré des nécessités matérielles de la vie. Ça, on pourrait dire que c'est la conception industrialiste de la liberté, et c'est ça qui fait le lien en effet entre les libéraux et les courants dominants du libéralisme et les courants dominants du socialisme après Marx, c'est qu'ils étaient tous industrialistes, et donc il y avait cette idée ce concept industrialiste de liberté qui était sous-jacent, la volonté de délivrance, notamment de délivrance via le développement des forces productives, de la technique, etc. Ça, c'est le point commun. Là, il y a des nuances à faire, hein, parce que, par contre, le marxisme et la plupart des formes de socialisme s'opposaient, ne partageaient pas avec les libéraux la volonté d'être délivrés des nécessités politiques de la vie. Au contraire, il y avait un appel à l'organisation collective, à la lutte, à l'autonomie. En ce sens-là, reprendre en charge, non pas être déchargé des activités politiques, mais les reprendre en charge nous-mêmes. Donc, il y a le point commun, c'est sur cette idée de délivrance matérielle, et c'est sur cette idée de délivrance matérielle que le livre se focalise, parce que c'est ça qui me semble travailler profondément notre civilisation. Et si on se souvient que derrière l'idée d'autonomie, il y a l'idée qu'il y a un soubassement matériel, que pour être autonome au sens se donner ses propres lois, il faut être autonome au sens matériel, subvenir à ses propres besoins. Donc moi, ce que j'essayais de découvrir, de mettre en évidence, c'était les soubassements matériels de la liberté. Or, cette conception industrialiste de la liberté, elle porte sur ce concept, cette dimension matérielle, mais elle dit être libre, c'est être débarrassé des nécessités. Moi, je pense que l'autonomie, ça va être reprendre en charge ces nécessités matérielles de la vie pour ne pas être dépendant d'acteurs qui nous imposent leur vision du monde et ce qu'il faut faire par le besoin qu'on a d'un certain nombre de choses qui sont seules à produire et qu'on est incapable de produire nous-mêmes. Alors, donc ça veut dire qu'il y a... je me focalise sur cette question de la délivrance matérielle qui traverse toute la civilisation industrielle, mais qui traversait aussi toutes les classes dominantes autrefois, et qui est en fait au cœur de la société de consommation. Je pense que la liberté implicite dans la société de consommation, c'est ça, être délivré des tâches matérielles par des robots, des aspirateurs automatiques, des je ne sais quoi. Et tout ça, ça prolonge en fait ce rêve de délivrance qu'on voit chez les libéraux, et qui remonte aussi aux aristocrates qui voulaient être délivrés des nécessités matérielles de la vie. Il y a tout ce lien-là qui aboutit à la conception industrielle industrialiste de la liberté partagée par les libéraux et les marxistes, et qui va être au cœur, au fondement matériel de notre modernité actuelle. Alors il se trouve que le monde industriel, il a quand même suscité des oppositions. Il y avait des libéraux anti-industriels, notamment quelqu'un comme Sismondi, qui était un ami de Constant. Il était complètement opposé au développement du machinisme, etc. Il pensait que ça allait tuer la liberté, même au sens libéral. C'est ce qu'on a compris par la suite. Il y a eu aussi des socialistes qui n'étaient pas marxistes et qui ne partageaient pas ce rêve de délivrance. Simone Veil, par exemple, c'est une des premières auteures socialistes à dénoncer cette idée que être libre serait être délivré de la nécessité, dans un texte magnifique que je reprends beaucoup et que je cite abondamment dans le bouquin, qui s'appelle « Réflexion sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale », un texte fantastique de 1934 que je conseille, dont je recommande la lecture à tout le monde, qui est très éclairant pour aujourd'hui encore. Néanmoins, c'est ni dans le libéralisme ni dans le socialisme que les courants anti-industriels ou de critique du monde industriel vont être les plus forts au début. Ça va plutôt être dans certains courant qu'on identifie plutôt à droite, aujourd'hui qu'on assimile plutôt à la droite, notamment en Allemagne. En Allemagne, dès la fin du 19e siècle, il y a eu un fort mouvement de réaction contre le monde industriel parce qu'il s'est mis en place de manière très brutale, beaucoup plus brutale qu'en France et en Angleterre, où l'industrialisation a commencé beaucoup plus tôt et s'est poursuivie beaucoup plus longtemps. La France commence à s'industrialiser dès 1800, même un petit peu avant, comme l'Angleterre, en retard sur l'Angleterre, mais assez tôt, alors que l'Allemagne ne commence à s'industrialiser vraiment qu'à partir de 1850-1870, mais en 1910, l'Allemagne est la première puissance industrielle mondiale ex aequo avec les États-Unis. C'est-à-dire qu'elle a fait le trajet, elle a fait en 40 ans, le trajet que la France a mis presque un siècle à faire. Donc le phénomène a été tellement brutal que ça a suscité la transformation des modes de vie, des paysages, des villes, a été tellement brutal, tellement rapide en Allemagne, que ça a suscité beaucoup de réflexions critiques et un fort mouvement d'opposition à la fin du 19e siècle, qui s'est appelé la Kulturkritik, la critique culturelle, et qui était une dénonciation de ce nouveau monde industriel, très en termes de déshumanisation, de rationalisation du monde, de désenchantement, d'augmentation effrénée du pouvoir, de démesure, d'hubris, etc. Beaucoup de thèmes qu'on retrouve dans l'écologie politique moderne, mais qui avait une spécificité. C'était que, à l'époque, le champ... ce phénomène-là, c'était le capitalisme, ce qu'on a appelé après Marx le capitalisme, le développement du capitalisme. Et il y avait déjà une critique, la critique sociale du capitalisme, portée par les marxistes et la social-démocratie, qui se focalisait sur des questions de justice, d'égalité entre les hommes, et dont le principe, c'était de dire le monde industriel, c'est très bien, mais en fait, il produit des inégalités horribles, alors que avec les moyens de production industrielle, on pourrait réduire ces inégalités, on pourrait être tous riches, ou tous délivrés de la nécessité, justement, dans l'égalité. Donc ça, c'est le projet marxiste fondamental et de la plupart des socialistes industrialistes. Ça va être de distinguer le capitalisme, la propriété privée, de l'industrie, la production en masse, et de dire il faut sauver l'industrie contre les méfaits du capitalisme, d'ailleurs, qui empêchent le plein développement des forces productives et des promesses de délivrance industrielle. Bon, en fait, moi, je pense que toute l'histoire du XXe siècle montre que ça ne marche pas, que ça n'a jamais marché et que ça ne marchera pas à plein d'égards. Mais on va revenir sur ce thème de cette question de l'Allemagne. Donc il y avait cette critique-là. Et la critique culturelle par rapport à la critique sociale, c'est un autre type de critique portée par d'autres acteurs qui, ce sont l'ensemble des gens qui ne voient d'un mauvais œil quand même ce développement effréné des forces productives et de l'industrie, donc pas seulement du capitalisme, pas seulement de la propriété privée, ou pas d'abord de la propriété privée, des moyens de production, mais le déchaînement des forces productives, et qui commence à s'opposer à ça. C'est une myriade de mouvements, de tout acabit, il y a plein de choses. On a parlé à cette époque-là, 1890-1910, en Allemagne, de la première alternative wilhelminienne, en analogie avec l'alternative des années 60, le mouvement alternatif dans les années 60-70. On a parlé aussi d'un mouvement pré-hippie, parce qu'il y avait toute une idéologie néo-païenne, New Age, qui se développait à cette époque-là en Allemagne, dont un titre d'un livre très connu de Nietzsche, qui était la figure de proue de la critique culturelle, ainsi par les Zarathustra, est tout à fait symptomatique de cet intérêt pour d'autres spiritualités que la spiritualité chrétienne occidentale. Donc se développe plein d'initiatives qui ont en commun le fait de remettre en question ce monde industriel. Donc il y a des associations pour la préservation des espaces naturels, mais aussi pour la préservation du patrimoine culturel, des villes, etc., qui se mettent en place pour lutter contre la modernisation de certains quartiers. Il y a des communautés autogérées, militaristes, qui se créent, antimilitaristes, et basées sur l'amour libre, qui se créent à la campagne, en Allemagne, à différents endroits, en Suisse, notamment un endroit qui s'appelle Monte Verita, qui a été un creuset creuset, de dissidence intellectuelle et artistique avant la Première Guerre mondiale. Il y a des coopératives de production de jus de fruits qui se créent pas loin de Berlin, un lieu qui s'appelle Eden, où vivaient plus de 300 personnes qui s'organisaient collectivement, qui faisaient des jus de fruits pour alimenter des cantines ouvrières et pas chères à l'intérieur de Berlin, où l'alcool était interdit. C'était un des éléments aussi de cette alternative-là, c'était une critique très forte de l'alcoolisme aussi. C'est la naissance de l'agriculture bio, de l'anthroposophie, de l'agriculture biodynamique en Allemagne dès cette époque-là aussi. C'est l'apparition des mouvements de jeunesse aussi, de ce qu'on a appelé les oiseaux migrateurs, les Wandervögel. C'était d'ailleurs des jeunes qui s'organisaient sans adultes pour faire des randonnées en toute autonomie, c'est-à-dire sans argent, où ils allaient de ferme en ferme, ils dormaient sur la paille et ils traversaient comme ça l'Allemagne, voire même l'Europe. Il y a tout plein de... Toutes ces réactions, c'est des réactions par rapport au monde autoritaire, encaserné, de l'usine, du monde industriel, de ses nuisances, mais qui délaisse la question des inégalités à la critique sociale, qui est pro-industrie, et qui se concentre, elle, uniquement sur la critique du développement des forces industrielles, sans porter beaucoup d'attention à la question de la propriété privée et au rapport de classe, on va dire. Alors, bien sûr, il y a des passages, il y a quand même une critique culturelle de gauche, voire d'extrême gauche. Il y a des penseurs anarchistes qui développent une critique culturelle, notamment le grand anarchiste Gustav Landauer, qui est un critique culturel qui intègre complètement la question des inégalités et qui dit le monde industriel, avec le monde industriel, on aura juste la dégradation culturelle et à la dégradation de la vie, et on n'aura en plus que des injustices sociales. Donc ils font le lien entre critique sociale et critique culturelle. Mais ces deux critiques en Allemagne, elles sont apparues comme relativement séparées à cause de cette configuration idéologique qui a été créée par le développement du capitalisme et le développement de la social-démocratie industrialiste à la même époque. Et donc tous ces courants-là, ils vont être plutôt associés à quelque chose rétrospectivement plutôt de droite. Quand on regarde les membres de ces associations, en fait, on voit qu'il y a énormément de sociaux-démocrates, en fait. Il y a une bonne moitié de gens qui font partie du Parti social-démocrate, en réalité, mais qui enrichissent leur critique du capitalisme en termes d'inégalité sociale et d'injustice par une critique du capitalisme en termes d'enlaidissement, de désenchantement, de rationalisation, de bureaucratisation, etc. Il y a tout plein de réflexions sur les villes-jardins aussi, sur les monnaies fondantes, des formes de coopératives qui se créent, coopératives de consommateurs, etc., qui se mettent en place. Voilà, donc c'est plus compliqué. Après, il y a 1914 qui se passe, en parallèle, il y a le développement d'une idéologie antisémite qui n'a pas des liens directs avec ce développement de la critique culturelle. Ça s'entrecroise comme à toutes les époques, mais c'est des filons séparés. Ça, l'antisémitisme avait plutôt des bases scientifiques à l'époque, et donc tous ces gens-là étaient contre relativement hostiles à la science, donc il n'y avait pas des liens nécessaires. Mais ça se développe en parallèle. Il y a 1914 qui fracture la société, qui implique de prendre parti, voilà, et qui va faire que le nationalisme va devenir une idéologie dominante dans ce courant-là, exactement comme dans la social-démocratie. Les sociaux-démocrates allemands ont voté et se sont engagés pour la guerre au mépris de tout leur internationalisme théorique, exactement comme la plupart des gens, des partisans de la critique culturelle, où il va y avoir des opposants fervents à la guerre, peut-être plus fervents que dans certaines parties du parti et du mouvement socialiste à l'époque. Et c'est après la Première Guerre mondiale que cette culture critique d'extrême droite va se développer en un courant qu'on appelle Völkisch, mais va aussi se transformer complètement, parce que après la Première Guerre mondiale, il y a une volonté de revanche de la part des Allemands par rapport à qui ont perdu la Première Guerre mondiale, et donc il y a toute une réflexion sur comment on va pouvoir foutre leur rétamer la gueule aux Français et aux Anglais et retrouver notre grandeur perdue. Donc on connaît l'histoire, Hitler, etc. Mais dans ce mouvement qu'on va appeler la révolution conservatrice, et puis ces courants Völkisch qu'on va identifier au courant Völkisch, Il n'y a plus de critique de la technique et de la science, ou en tous les cas elle est très atténuée, et pour une raison bien simple, c'est pour pouvoir foutre leur misère aux Français et aux Anglais, il va falloir avoir des moyens de production industrielle, une armée industrielle, et donc on va se mettre à valoriser énormément la technique comme moyen de puissance géopolitique. Et donc c'est à la fois, c'est dans la... Il y a un lien avec la critique culturelle d'avant-guerre, en tous les cas un lien biographique dans beaucoup de parcours mènent de la critique culturelle d'avant-guerre, l'engagement dans la guerre, les années de guerre et puis les courants néoconservateurs. Mais en même temps, il y a un basculement idéologique complet qui est qu'on renonce à la critique du déchaînement des forces productives.
Il y a un bouquin, j'ai oublié l'auteur, c'est Le modernisme réactionnaire.
Tout à fait, Geoffrey Hirsch, je crois.
Et là-dedans, il y a des descriptions de comment ils arrivent à retomber sur leurs pattes un peu romantiques, avec les descriptions de tempêtes, de montagnes, mais industrielles. Cette fois, l'allemand va se réaliser, va être en lien avec un paysage démesuré d'acier, de sang, de bombes, c'est terrifiant. Je voudrais profiter de ce que tu dis. Il me semble que c'est Geoffroy de Laganerie qui a dit un truc comme toute critique de la technologie est forcément réactionnaire, un truc comme ça. Du coup, est-ce que tu penses en fait que ça tient encore la route, l'opposition réactionnaire progressiste? Est-ce que c'est une analyse pertinente?
Non, ça je me suis exprimé il y a des années là-dessus beaucoup, c'était au cœur de mon livre précédent qui s'appelle La fabrique des derniers hommes. Je pense que c'est une opération, une dichotomie qui n'a plus aucun sens aujourd'hui. En fait, il faudrait rentrer dans la notion de progrès qui est une notion complexe, mais en gros, progrès c'est à la fois l'idée d'une progression, c'est purement descriptif, on peut pas nier qu'il y a eu des progrès depuis le 18e siècle ou le 16e siècle, des progrès au sens des évolutions matérielles, scientifiques, économiques, etc. Donc il y a eu progression, mais derrière progrès il y a l'idée qu'on va vers le mieux. Et c'est-à-dire, c'est l'idée plus précisément que le développement scientifique et technique va favoriser le développement économique, qui va lui-même favoriser le progrès social et humain et moral même de l'humanité, c'est-à-dire qu'on va vivre on va être de plus en plus en paix, on va être les hommes vont être de moins en moins égoïstes, etc., parce qu'ils n'auront plus la pression de la rareté grâce à l'abondance industrielle, et donc tout ça va pacifier les rapports humains. L'histoire du XXe siècle dément complètement ce scénario très optimiste de l'idéologie du progrès. Et le problème, c'est que quand on oppose progrès progressiste et réactionnaire, on se réfère que à la dimension progrès moral, politique, social, progrès humain, la dernière chaîne du raisonnement. Et donc les réactionnaires seraient ceux qui voudraient garder une société d'ordre, une société inégalitaire à l'ancienne, et les progressistes seraient les partisans de l'égalité sociale. Et en effet, sous l'influence du marxisme, on a cru que le progrès, mais pas que du marxisme, de toute l'idéologie progressiste moderne, on a cru que progrès technique et scientifique égale progrès économique, donc accroissement de la production, de l'abondance, etc., et conduirait au progrès social, moral, politique de l'humanité, tout simplement parce que le pouvoir serait essentiellement lié à des problèmes de rareté. C'est parce que les biens ne sont pas en quantité suffisante dans le monde que les gens se précipitent pour se les approprier de manière privative. Donc ce serait la genèse de la propriété privée, ce serait la rareté. Et la propriété privée nous conduirait au capitalisme avec toutes ces injustices et ces inégalités. C'est une vision complètement absurde des rapports politiques, je pense, parce que en fait les rapports de domination d'inégalité ne sont pas que des problèmes de rareté. En tous les cas, l'abondance industrielle telle qu'on l'a n'a pas du tout résolu le problème, manifestement. C'est donc la volonté de domination et d'avoir toujours plus existe toujours plus. Elle est sans doute même exacerbée par l'abondance industrielle. Donc, en tous les cas, cette idée que l'abondance industrielle allait poser les bases de la liberté parce qu'il n'y aurait plus cette course à s'approprier les choses qui seraient trop rares, ça a montré ses limites, voire ça a montré que c'était complètement faux au sens moderne. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette idéologie progressiste est encore très forte, notamment à gauche. Moi, par exemple, je pense précisément l'inverse. Je pense qu'aujourd'hui, le développement scientifique et technique, en tant qu'il est vecteur de développement économique, c'est-à-dire de progrès du capitalisme, eh ben, il est vecteur d'inégalités sociales, d'injustices sociales toujours croissantes. En tous les cas, de fait, c'est ce qui se passe. Les inégalités ne cessent de se multiplier malgré l'abondance industrielle toujours croissante et malgré toutes les promesses qu'on nous fait. Et donc, le progrès scientifique et technique est... il provoque bien du progrès économique, hein, au sens du développement du capitalisme, mais ça génère toujours plus d'inégalités et toujours plus de nuisances, aussi en termes culturels, spirituels, matériels, etc. En termes de, pas seulement en termes d'injustice et d'inégalités, mais de désenchantement, de rationalisation, de bureaucratisation, de perte de liberté, etc. Et donc, c'est au nom des valeurs qu'on a associé au progrès ou au progressisme en général, donc l'idéal d'égalité sociale, d'émancipation au sens de dépassement des classes sociales et d'égalité sociale, que moi je critique le progrès capitaliste aujourd'hui et le progrès technologique en tant qu'il est un vecteur dans ce monde-là, dans le monde tel qu'il est. Le progrès technologique, il est au service fondamentalement du capitalisme, et croire qu'on pourrait dépasser le capitalisme grâce à des technologies qui ont été engendrées par le capitalisme me semble complètement faux. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait réussir à s'opposer, à politiser des questions technologiques qui ne sont jamais politisées, alors qu'elles bouleversent notre monde bien plus fortement que n'importe quel changement de majorité politique. Ce sont vraiment les technologies qui transforment le monde, mais elles ne sont pas politisées, alors que c'est une force clairement politique. Et c'est une tare de toute la gauche et de toute la militance, d'une certaine militance d'extrême gauche, d'accepter de ne pas avoir politisé ces questions alors qu'elles sont au cœur des enjeux politiques. Il me semble aujourd'hui, c'est contre ça qu'on bataille depuis des années, notamment avec le groupe Marcuse et notamment sur la question de l'informatique qui a été présentée longtemps comme neutre. Et donc aujourd'hui, nous on pense que pour qu'il y ait un véritable progrès humain, au sens d'une émancipation sociale, d'un monde de forme de vie plus pacifiée et de plus d'égalité sociale, eh bien, il faudrait d'abord arrêter, s'opposer très fermement, entre autres, au progrès, soi-disant, technologique et scientifique. Il faut s'opposer très fermement au développement de la technoscience qui fournit toujours plus d'armes, toujours plus puissantes aux dominants et de moyens de... qui fournit aux dominants toujours plus de moyens de dominer certaines catégories de population et de creuser le fossé entre eux et ces populations dominées.
Il y a une confusion qui est entretenue depuis un certain nombre de décennies entre le concept de liberté et de délivrance, entretenu également par des courants de gauche, d'extrême gauche. Du coup, face à ça, pour sortir de cette confusion, se présente quand même un horizon qui est celui de l'autonomie. Est-ce que tu peux définir ce qu'est l'autonomie au sens de la liberté et de quelle manière l'autonomie matérielle peut de nouveau rejoindre l'autonomie politique et donc en termes d'organisation sociale, concrètement, qu'est-ce que ça donnerait ?
Alors si mon interprétation, mon analyse de la liberté, de ce qui est le cœur vraiment de la liberté des modernes est juste, c'est-à-dire que c'était pas l'inviolabilité de la vie privée, ça c'était la vitrine constitutionnelle qui a éclaté avec Snowden dans l'indifférence générale, et il y avait indifférence parce qu'en finalement le cœur c'était autre chose, c'était être délivré des nécessités matérielles de la vie et nécessités matérielles et sociopolitiques de la vie, et que ça c'est permis par le développement industriel. Donc si c'est bien le cœur, l'imaginaire dominant voire hégémonique de la liberté à l'âge moderne, tel qu'il traverse une partie des courants socialistes et le libéralisme. Si la liberté, donc, c'est être délivré des nécessités matérielles et sociopolitiques de la vie, on peut constater que l'autonomie, telle qu'on y aspire fortement dans certains courants politiques depuis les années 70, c'est un peu le contre-pied de ça. C'est un peu la découverte que j'ai fait, parce qu'en fait, quand on parle d'autonomie matérielle, d'autonomie énergétique, alimentaire, etc., être autonome, c'est subvenir à ses propres besoins, ça veut dire assurer sa subsistance, ça veut dire reprendre en charge les non-nécessités, les nécessités de la vie quotidienne, notamment sur le plan matériel et socio-politique. Et donc on a une opposition assez nette entre la liberté, c'est d'être délivré des nécessités de la vie, et la liberté comme autonomie, c'est reprendre en charge ou prendre en charge nous-mêmes ces nécessités. Cette idée d'autonomie, on la voit elle est sous-jacente à la plupart des courants de l'écologie politique. Elle est très nette dans le mouvement zapatiste au Chiapas, au Kurdistan et dans plein de par le monde. C'est-à-dire, elle traverse un petit peu partout. Et c'est ça qui m'a frappé. En fait, j'ai compris en faisant ce livre. Le but était de comprendre les tenants et aboutissants de cette aspiration à l'autonomie. Mais j'ai compris ça que quand on s'est dit, quand je me suis installé pour construire. Quand je me suis installé à la campagne en 2008 avec ces volontés de vie autonome, j'avais pas forcément l'idée en fait des implications, la profondeur des implications philosophiques et politiques de ce geste-là. J'avais surtout l'idée que j'en avais marre de la ville, de la vie urbaine, voilà, l'idée un petit peu d'avoir une vie plus équilibrée aussi, de pas être juste un travailleur ultra spécialisé, prof de philo, qui corrige des copies de philo à la fac ou en lycée toute sa vie. J'avais des aspirations à une vie plus riche, plus épanouie, parce que en partie libérée du salariat, de sa monotonie, etc. Mais j'avais pas forcément conscience de la dimension politique. Et d'ailleurs, dans les mouvements, dans le mouvement autonome dont je faisais partie, il y avait des gens qui moquaient un petit peu ces gens qui allaient s'installer à la campagne comme une forme d'alternativisme. Il n'y a rien de politique. Finalement, vous êtes comme les colibris. C'est pas très différent, etc. Moi, ce que j'ai, à force de réfléchir, j'ai vu, à un moment donné, j'ai vu cette opposition entre délivrance, être déchargé des nécessités de la vie, comme le motif fondamental du libéralisme et d'autres mouvements politiques dominant l'âge moderne, et ce concept implicite d'autonomie, prendre en charge les nécessités de la vie. Donc là, je me suis rendu compte, ah oui, il y a quand même une certaine profondeur dans ce geste-là. C'est pas juste parce que je suis un peu manuel et intellectuel, et c'est pas juste un choix de vie personnel. Il y a quand même manifestement une profondeur, quelque chose d'important là-dedans. Et en effet, moi, je pense que c'est absolument crucial, cette histoire d'autonomie, de redévelopper son autonomie. Quand j'ai réfléchi à cette histoire de la liberté, notamment via Constant, j'ai relu tous les textes, je me suis enquillé tous les textes de la plupart des philosophes et de plein d'intellectuels sur la liberté, tout ce qui touchait à la liberté, j'ai lu ça pendant 10 ans. C'est aussi pour ça que ça m'a pris du temps de faire ce travail-là, parce que j'ai essayé de faire un travail vraiment à fouiller, à informer et approfondi. Au début, j'ai pas fait attention. L'opposition liberté des anciens, liberté des modernes, elle me semblait pertinente parce qu'elle mettait en évidence quand même un truc essentiel de la modernité politique, l'aspiration à la vie privée, à l'individualisme, tout ça. Au début, je me suis dit, oui, c'est quand même, c'est peut-être un imbécile libéral constant à certains égards. Enfin, je suis pas d'accord avec lui politiquement, mais ce texte, si c'est devenu un grand classique, c'est à juste titre parce qu'il a saisi un élément essentiel de l'esprit du temps, le développement d'une conception purement privée de la liberté. Mais peu à peu, d'abord, je me suis rendu compte qu'il a mis en place un dispositif, une vitrine constitutionnelle de l'inviolabilité de la vie privée en masquant implicitement cette idée de délivrance, mais qu'on retrouve dans le texte. Je le montre avec des citations bien précises. L'inconscient fait retour, hein, toujours, ou ce qu'on essaye de cacher, ou ce dont il n'était pas tout à fait conscient fait retour quand même dans le texte. Donc on voit bien cette idée de délivrance, elle traverse son texte, en effet. Mais surtout, je me suis rendu compte peu à peu que son opposition entre liberté des anciens et liberté des modernes, c'était une opération politique. On en a parlé à un moment donné, c'était pour ringardiser les aspirations à l'engagement et à la participation populaire telles qu'elles avaient traversé la Révolution française. C'est très net parce que j'ai dit que Constant était un ami d'un économiste libéral anti-industrialiste qui s'appelait Sismondi. Et Sismondi, en fait, avait développé juste avant Constant, ou en même temps que Constant, cette opposition liberté des anciens, liberté des modernes. Seulement les anciens, chez Constant, c'est les Grecs et les Romains, donc c'est un petit peu Mathusalem, c'est l'Antiquité, c'est vous allez quand même pas vouloir revenir à la liberté politique, ce serait vouloir revenir à la bougie ou à l'âge des cavernes. Mais les anciens, chez Sismondi, c'est pas du tout les Grecs et les Romains, c'est, il cite les Suisses, les Allemands, les Italiens à l'époque de la liberté communale, donc il cite le Moyen-Âge et les villes autonomes, les cités-états qui avaient su conserver des formes d'autonomie, notamment en Suisse et en Allemagne, jusqu'au XVIIe siècle ou au XVIIIe siècle, c'est-à-dire des cités qui s'auto-administraient, qui était indépendante de l'État central. Donc là, je me suis rendu compte que cette historicisation de l'opposition entre les deux formes de liberté ancien et moderne, elle était fausse, et en fait qu'il fallait mieux la reformuler en termes de les libertés, les modernes ou les bourgeois modernes, ils veulent la liberté individuelle et privée au sens la protection par l'État des droits individuels. Et il y a un autre courant qui identifie la liberté à la participation aux décisions qui structurent la vie collective et qui définissent notre avenir commun. Et l'une n'est pas moderne et l'autre n'est pas ancienne, spécifiquement, en tous les cas pas antique. C'est sûr que la liberté comme protection des droits individuels pour pouvoir faire ce qu'on veut, elle est plus spécifiquement moderne et elle prend de l'ampleur à l'époque moderne. Mais l'autre conception, elle traverse complètement aussi l'époque moderne, juste elle est portée par d'autres classes sociales. Pas du tout par la bourgeoisie moderne ou les couches parabourgeoises, on va dire, mais par d'autres couches sociales. Et donc, je me suis demandé quel était le concept de liberté implicite chez les couches non bourgeoises, sachant que c'est un petit peu plus compliqué comme exercice parce qu'elles ne laissaient pas forcément de texte, en tous les cas, elles ne laissaient pas des traités comme les bourgeois qui ont écrit des livres sur la liberté, des dizaines et des dizaines de livres, John Stuart Mill, Benjamin Constant, Bentham, Mills, etc. etc. Voilà. Donc j'ai commencé à réfléchir à ça et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait quand même un concept implicite de liberté qui avait été défendu par la plupart des classes populaires aujourd'hui comme hier, c'était d'être qu'on leur laisse subvenir à leurs propres besoins comme elles avaient l'habitude de le faire. Prenons par exemple des luttes très classiques des couches populaires au 19e siècle, mais encore aujourd'hui dans le tiers-monde, au 20e siècle et au 21e siècle. Il y a la lutte pour défendre le libre accès à un certain nombre de ressources, notamment les forêts en Inde, mais en France c'était la même chose. Les premiers articles de Marx, c'était sur les mouvements paysans et populaires, où les gens allaient chercher du bois dans des bois qui avaient été privatisés, alors qu'avant c'était des ressources communes où les gens avaient le droit d'aller se servir en bois pour se chauffer. Les forêts sont privatisées et ça prive une partie des couches populaires de moyens de subsistance essentiels, l'accès à l'énergie pour se chauffer, ce qui est essentiel en hiver. Et les premiers textes de Marx sont là-dessus. Mais il ne remarque pas que finalement, derrière ce geste-là, il y a une certaine conception de la liberté. C'est nous, être libres, c'est pas forcément avoir du pétrole à volonté, c'est avoir le droit de continuer à récolter le bois pour se chauffer dans ce qui était des communaux autrefois. Et donc, dans les couches populaires, il y avait cette idée que la liberté, c'est le libre accès aux moyens de subsistance qui permettent d'assurer l'autosubsistance, l'autosuffisance matérielle, donc qui permettent de prendre en charge nos propres besoins. Être libre, c'est pas être délivré des nécessités matérielles de la vie, c'est les prendre en charge collectivement.
Voilà, c'est la fin du troisième épisode consacré au livre d'Aurélien Berland, Terre et Liberté. On se retrouve la prochaine fois pour le quatrième et dernier épisode. À bientôt sur Floraison.